Bien, je vous remercie tous d'avoir affronté le froid pour arriver jusqu'ici. Seule consolation, nous aurons aujourd'hui des sujets particulièrement brûlants. Donc, nous aurons à suivre très attentivement le déroulement chronologique, puisque les questions sont plus que problématiques qui seront abordées dans cette séance. La dernière fois, je vous avais laissé à la publication du plan Reagan, qui est bien pour nous rappeler combien les opérations militaires sont liées à des questions politiques, puisqu'on avait pu voir dans la séance précédente que les Israéliens étaient intervenus au Liban pour éliminer l'OLP et imposer l'autonomie par des collaborateurs interposés au territoire occupé. Au contraire, les Palestiniens voulaient jouer de leur résistance à Beyrouth pour s'imposer comme un partenaire politique indispensable. Et enfin, les Américains essayent de profiter de la situation pour proposer en quelque sorte une solution moyenne qui serait le plan Reagan. Restent les Arabes eux-mêmes et l'Arabie saoudite a profité de la conjoncture pour faire obtenir la reconvocation du sommet de Fès qui officiellement n'avait été qu'interrompu l'année précédente. Et donc le sommet de Fès reprend à Fès le 6 septembre 1982. Arafat y reçoit un accueil triomphal. Le Liban n'est présent que sous forme de diplomate de carrière, chargé de demander le départ de la force arabe de dissuasion. La Syrie veut conditionner le retrait de son armée au retrait de l'armée israélienne. Mais ce qui est au centre du débat, c'est le plan FAD de l'année précédente, que cette fois, les Saoudiens veulent faire adopter. Et la conjoncture se faisant, le plan saoudien devient le plan arabe de Fès, sous une forme de 8 points. Retrait d'Israël de tous les territoires occupés en 1967, y compris Jérusalem-Est. Démantèlement des colonies édifiées par Israël dans les territoires après 1967. Garantie de la liberté de culte pour toutes les religions dans les lieux saints. Réaffirmation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'exercice de ses droits nationaux inaliénables sous la conduite de l'Organisation de libération de la Palestine, son représentant unique et légitime, ainsi qu'au dédommagement pour ceux qui ne désirent pas rentrer. Ça, c'est la partie concernant les réfugiés palestiniens. La Cisjordanie et la bande de Gaza seront placées sous la tutelle des Nations Unies pour une période transitoire ne dépassant pas quelques mois. La création d'un État palestinien indépendant ayant Jérusalem pour capitale. Le Conseil de sécurité garantit la paix entre tous les États de la région, y compris l'État palestinien indépendant. Le Conseil de sécurité garantit le respect de ses principes. Donc le plan de Fès est dans la continuité des plans arabes précédents, adoptés dans les sommets arabes. On y parle bien de paix, mais sans citer Israël. Le principe fondamental est les territoires contre la paix et la non-belligérance. Selon le commentaire d'Hassan II, l'ouverture de relations diplomatiques était envisagée dans une seconde étape. En ce qui concerne le Liban, on prend acte de la demande libanaise de retrait des forces syriennes et on appelle les gouvernements libanais et syriens à ouvrir des négociations sur les dispositions à prendre à la lumière du retrait israélien et syrien. L'élément le plus frappant pour les observateurs est l'absence de la condamnation de l'État d'Israël et du plan Reagan, ce qui constitue une ouverture diplomatique majeure. C'est interprété dans ce sens par le Département d'État. En revanche, bien évidemment, la réaction officielle israélienne est que la création d'un État palestinien vise à la liquidation de l'État d'Israël par étapes, donc on ne peut pas prêter une attention sérieuse au plan de Fès. Donc, c'est le dernier élément de la panoplie diplomatique. Alors, pendant ce temps-là, vous revenez au 1er septembre, le jour où Samuel Lewis était venu informer Menachem Begin, qui était en train de se reposer à Netanya sur la côte, pour l'informer du plan Reagan. En fait, Begin était là surtout pour rencontrer secrètement Bachir Gemayel. Et donc, l'entretien entre Begin et Bachir Gemayel succède immédiatement à l'entretien entre Samuel Lewis et Begin. Alors, les deux délégations commencent par célébrer la victoire commune et Begin annonce que l'on va bientôt débuter la phase 2 du plan, c'est-à-dire chasser les terroristes du Liban Nord et de la Beka. La phase 3 serait un retrait simultané des armées syriennes et israéliennes. Israël soutiendra la constitution d'un État fort au Liban. Il faut maintenant signer un traité de paix entre les deux pays. Bachir lui répond par des remerciements chaleureux, mais laisse entendre que la pleine normalisation des relations devra attendre la réalisation des phases 2 et 3. Begin exige des démonstrations immédiates d'amitié et j'essaie de retrouver l'image. L'amitié, Béchir élude en rappelant qu'une part importante de la population chrétienne reste encore sous contrôle syrien et palestinien au Liban. Il a besoin du soutien des musulmans pour éviter la désintégration du pays. Et Begin passe immédiatement à la menace en soulignant que l'unité du Liban serait remise en cause au sud, allusion directe à Sanhadad. Bachir évoque un malentendu et parle des modalités d'un traité à étudier au préalable. Ensuite, on discute de la question de l'ALS. Bachir insiste sur la nécessité légale de faire comparaître Sanhadad devant un tribunal militaire, au moins pour la forme. Ensuite, on pourrait le nommer attaché militaire à l'étranger. Begin lui répond qu'il n'est absolument pas question que les Israéliens abandonnent Sanhadad et reprend la menace, je cite, « De toute manière, s'il n'y a pas de traité de paix, le statut du Liban Sud sera différent. Nous garderons une ceinture de 40 à 50 km au Liban et aucune pression américaine ne nous fera bouger d'un mètre. Le traité de paix n'est pas seulement important pour nous, il l'est également pour vous. Il nous évitera d'occuper 40 km de votre territoire. Nous n'en avons pas besoin, sauf pour notre sécurité. Je vous le dis en ami, notre relation est à un tournant décisif. Nous vivons depuis 3700 ans ici. Nous ne serons pas chassés. Nous ne demandions pas la paix, mais nous subissons une très forte pression interne. » Alors, Begin est très critique par rapport au comportement de Bachir Gemayel et des forces libanaises. En fait, Bachir tient toujours à marquer ses distances avec les Israéliens. Une fuite opportune révèle le 3 septembre à la presse internationale l'existence de l'entretien du premier. Furieux, Bachir Gemayel refuse tout nouveau contact avec des responsables israéliens. Dès lors, et contrairement aux engagements pris, l'armée israélienne reprend son grignotage de Beyrouth Ouest dans le secteur de l'aéroport et de l'ambassade du Koweït, c'est-à-dire à 200 mètres du camp palestinien de Sabra. Un poste de commande avancé, un immeuble de 6 étages, est occupé et surplombe les deux camps palestiniens de Sabra et Shatila. Officiellement, cette pénétration de l'armée israélienne à Beyrouth est censée contribué au déminage de la ville et la réouverture des artères de communication. Vous avez ici la photo de ce qu'on voit à partir du quartier général de l'armée israélienne à Beyrouth, question importante pour la suite des événements. Au début de septembre, le secrétaire d'État à la Défense, Caspar Van Berger, vient inspecter le contingent américain de la force multinationale. Il est reçu par Bachir Gemayel, qui lui propose une présence permanente de l'armée américaine au Liban, facteur de dissuasion pour Israël et la Syrie. Van Berger en comprend la logique, mais n'en voit pas l'intérêt pour son pays. C'est l'opinion unanime des responsables de l'administration Reagan. Et le secrétaire à la Défense se rend ensuite en Israël et en Égypte. Le 10 septembre, les États-Unis rappellent avec une semaine d'avance leur contingent de la force multinationale. Weinberger considère que la mission est accomplie et qu'il n'y a aucune raison pour faire durer plus longtemps le séjour dans un environnement aussi dangereux. Du coup, la France et l'Italie sont obligées de suivre. Donc là, vous avez le départ du contingent américain. Mission accomplie. Adieu. Au revoir, je ne sais plus faire voile. Le 12 septembre a lieu une entrevue secrète entre Ariel Sharon et Bachir Gemayel. L'Israélien explique le comportement de Begin par l'ampleur des pertes israéliennes, 360 tués et 2200 blessés depuis juin, et la nécessité de montrer des gains concrets à l'opinion publique. La question importante est surtout ce chiffre curieux des 2000 terroristes que les Israéliens sont persuadés être encore présents à Beyrouth. Et Ariel Sharon dit, je cite, « Je voudrais pouvoir entrer dans Beyrouth et capturer ou tuer tous les terroristes qui sont restés. Dites-moi aujourd'hui si c'est possible. Nos soldats sont déjà à Bir Hassan et à l'ambassade koweïtienne. Je souhaiterais avoir votre autorisation pour investir la ville. Nous n'y sommes pas entrés jusqu'à présent à cause de la force multinationale. Si nous l'avions fait, elle ne serait pas partie. » Bachir répond qu'il faut attendre son investiture officielle le 23 septembre. Alors pourra commencer le nettoyage de Beyrouth-Ouest. Ce sera la tâche de l'armée libanaise. L'armée israélienne sera simplement en soutien comme instrument de pression. Par ailleurs, les deux zones mettent au point un plan commun d'action contre l'armée syrienne dans la Bekaa. Et dès le 13 septembre, l'aviation israélienne commence à harceler les positions syriennes dans la Bekaa. Alors là, maintenant, il faut suivre la chronologie pratiquement heure par heure pour la suite des événements. Le 14 septembre, Bachir Gemayel tient une réunion de travail dans un appartement du quartier chrétien d'Ashrafieh. À 16h10, une bombe de 35 kg de TNT explose dans l'immeuble. On croit un moment que le président élu a survécu à l'attentat avant qu'on puisse identifier son corps. L'enquête déterminera que la bombe a été placée dans un autre appartement de l'immeuble et le responsable sera rapidement arrêté. Il appartient à la mouvance du PSNS, l'ancien PPS, Parti National Syrien, qui est d'obédience pro-syrienne. La confusion est à son comble. Il n'y a pratiquement plus d'autorité légale libanaise constituée. Le soir du 14 septembre, quand la mort de Bachir est confirmée, Sharon donne l'ordre à l'armée israélienne de pénétrer à Beyrouth-Ouest et enfin d'opérer le fameux nettoyage demandé depuis plusieurs semaines. Begin lui demande seulement que les militaires israéliens n'entrent pas dans les camps palestiniens. À 3h30 du matin, le mercredi 15 septembre, le chef d'état-major de l'armée israélienne, Rafael Eitan, informe les chefs des forces libanaises complètement désemparés du plan d'action de l'armée israélienne. Les forces libanaises doivent se tenir en réserve. On aura besoin d'eux pour nettoyer les camps palestiniens. Fedi Frem, qui commande les forces libanaises, demande un délai de 48 heures en raison des funérailles de Bachir. Mais le commandant israélien sur le terrain, Drori, déclare qu'il pourrait avoir besoin plus tôt des forces libanaises. On prend alors contact avec le colonel Michel Aoun pour savoir si l'armée libanaise pourrait entrer dans les camps. Mais Michel Aoun refuse. Il lui faut un ordre du gouvernement libanais. Or, à ce moment-là précis, il n'y a plus de gouvernement libanais. Entre 5 et 7 heures du matin, l'armée israélienne pénètre à Beyrouth Ouest, tandis que des renforts arrivent par avion à l'aéroport. Les seules résistances viennent des milices musulmanes sunnites. Leur chef passe dans la clandestinité. Les envahisseurs s'applique à éliminer avec brutalité toute forme d'opposition. Les chars tirent à coups de canon sur les immeubles abritant miliciens et francs-tireurs, en fait peu nombreux et mal organisés. Les destructions considérables. Au passage, la résidence des Pins, la résidence de l'ambassadeur de France, reçoit de nouveau un obus israélien, ce qui est évidemment un cadeau d'Ariel Sharon. Sharon s'installe au poste de commandement, surplombant les camps de Sabra et Shatila et informe Begin de l'évolution de la situation. Il semble que dans cette discussion, le rôle des forces libanaises n'ait pas été abordé, puisque rien n'a encore été décidé. Le prétexte officiel de l'entrée de l'armée israélienne à Beyrouth est d'assurer le maintien de la paix et de prévenir tout incident grave et toute effusion de sang entre les communautés libanaises. À Jérusalem, Samuel Lewis et Maurice Draper, Habib étant aux États-Unis, se précipitent pour rencontrer Begin. Le premier ministre leur affirme qu'il s'agit d'une opération limitée destinée à maintenir l'ordre dans la ville et à éviter les massacres. Admirassuré, Draper se précipite au Liban pour assister aux funérailles de Bachir Gemayel, que vous avez sur l'image. À 10 heures du matin, Sharon confère avec Eli Obeika, le chef des services de renseignement des forces libanaises. Il adjure ses alliés de se maintenir au pouvoir, si possible, de façon constitutionnelle. Les forces libanaises doivent se tenir prêtes à intervenir à proximité de l'armée israélienne. Sharon se rend ensuite à Bikfaya, le fief de Gemayel, pour assister aux funérailles. Il échange quelques propos avec Pierre et Amin Gemayel. Ce dernier se déclare prêt à poursuivre l'action de son frère. Sharon ensuite rentre directement en Israël. À Beyrouth, les officiers supérieurs de l'armée libanaise sont convoqués par les Israéliens qui leur expliquent que l'occupation de Beyrouth est une opération préventive destinée à prévenir toute manifestation intempestive de la part des partis et factions de Beyrouth Ouest à la suite de l'annonce de la mort de Bachir Gemayel. L'armée libanaise doit rester dans ses cantonnements et ne pas s'opposer au mouvement de l'armée israélienne. Les camps palestiniens sont maintenant encerclés complètement par les militaires israéliens. L'électricité est coupée. Les témoignages rapportent que l'atmosphère est plutôt calme. Les soldats par haut-parleur appellent la population à se rendre, mais affirment qu'on ne lui fera pas de mal. Ceux qui ont des armes doivent les livrer. Les gens doivent rester chez eux. Ceux qui cherchent à fuir les camps sont refoulés par l'armée israélienne. Des inconnus semblent relever la position des abris. Le rapport de la commission d'enquête libanaise parlera de commandos des services de renseignement israéliens qui seraient entrés dans les camps et auraient commis à ce moment-là un certain nombre d'assassinats délibérés, ciblés. Mais la reconstitution faite à partir des témoignages des survivants n'évoque pas cette affaire. Le matin du jeudi 16 septembre, l'occupation de Beyrouth Ouest est terminée. Elle a coûté 8 tués et 50 blessés à l'armée israélienne et 88 tués et 254 blessés chez les Libanais du fait de foyers sporadiques de résistance. On ratisse la population dans les secteurs suspects. On utilise des informations d'indicateurs depuis longtemps implantées sur place. Des militaires encadrés par des hommes des services de renseignement effectuent des perquisitions un peu partout dans la ville à la recherche de personnalités palestiniennes. Elles ont en général réussi à se cacher, soit dans des ambassades étrangères, soit au domicile de certaines personnalités politiques musulmanes. On s'empare aussi de la documentation des centres de recherche palestiniens. À Washington, on est indigné du comportement israélien. Encore une fois, Begin a trompé délibérément les Américains sur ses intentions véritables. On hausse le ton devant l'ambassadeur israélien. Dans ces conditions, le gouvernement américain serait amené à se demander si les États-Unis auraient toujours des intérêts communs avec Israël au Moyen-Orient, et les États-Unis sont prêts à voter la résolution du Conseil de sécurité exigeant le retrait immédiat de l'armée israélienne de Beyrouth. On laisse néanmoins aux Israéliens un délai de 48 heures avant le vote. Finalement, la résolution sera votée le 17 septembre, qui exige le retour des Israéliens sur l'opposition d'avant le 15 septembre et rappelle que les droits des populations civiles sans aucune discrimination doivent être respectés et on réprouve tout acte de violence contre les populations. La réponse israélienne est que le retrait aura lieu quand l'armée libanaise sera prête à faire la relève. La direction des forces, donc nous arrivons au massacre eux-mêmes, Sabra et Shatila. La direction des forces libanaises est divisée sur la position à prendre dans la succession de Bachir Gemayel. Pierre Gemayel a avancé la candidature de son fils aîné, Amin, très impopulaire chez les miliciens, mais le poids du vieux patriarche politique l'emporte. Et la direction des forces libanaises ne veut pas d'un schisme entre le parti des phalanges et les forces libanaises qui sont issues des phalanges. Donc, résignées, les forces libanaises acceptent la candidature d'Amin Gemayel à la présidence. À 11h du matin, le 17, Drori tient une réunion de coordination avec les représentants des forces libanaises. Il est entendu que les miliciens pénétreraient dans les camps en coordination avec l'armée israélienne. Selon la version ultérieure des Israéliens, ils auraient insisté sur la nécessité de ne pas maltraiter la population civile. En début d'après-midi, les camps de Shatila et son voisinage sont bombardés par l'armée israélienne. Naturellement, les gens se précipitent dans les abris ou dans les hôpitaux considérés comme des lieux sûrs. Les anciens du camp décident d'envoyer une délégation auprès des Israéliens pour leur demander d'arrêter les tirs. Dans ce qu'on a pu reconstituer, une délégation de 4 personnes est bien partie en direction du poste de commandement israélien, mais elle n'y est jamais arrivée. On a retrouvé ultérieurement les corps des membres de la délégation. Un groupe de femmes et d'enfants venant de l'hôpital Raqqa et portant des drapeaux blancs tentent de quitter le camp. Ils sont repoussés par des tirs dans leur direction. Quelques dizaines de jeunes gens, au contraire, ont pris les armes, mais ils sont moins d'une centaine, probablement de l'ordre à 60 à 80 personnes armées à Sabra et Shatila à ce moment-là. Ils tentent une résistance désespérée. C'est vers 18 heures que les miliciens des forces libanaises entrent dans le camp, au moment où, en coordination, l'armée israélienne cesse le bombardement. Selon la thèse des proches des forces libanaises, ce serait surtout des hommes d'Abeika, une sorte de milice privée dépendant des services de renseignement. Ils seraient beaucoup moins disciplinés et militarisés que les autres unités des forces libanaises. Ce qui est certain, c'est qu'Obeika supervise les opérations à partir du poste de commandement avancé israélien qui surplombe Sabra et Shatila. Comme il fait nuit, les Israéliens illuminent le ciel avec des fusées éclairantes et reprennent des tirs sporadiques sur les parties du camp qui ne sont pas occupées par les forces libanaises. Ce qui implique qu'à chaque moment, la coordination a eu lieu entre les forces libanaises et l'armée israélienne. L'essentiel de ce qui s'est passé ensuite est connu de façon fragmentaire grâce aux témoignages recueillis à diverses époques auprès des survivants. Environ 500 à 600 miliciens sont entrés simultanément à partir de plusieurs accès. Ils ont commencé à massacrer systématiquement hommes, femmes et enfants. Il y aurait eu de nombreux viols. Les abris ont été les premiers objectifs visés durant la nuit. À ce moment-là, la partie centrale du camp est épargnée, comme vous pouvez voir, l'axe de pénétration. Donc cette partie-là du camp est préservée à ce moment-là. Une partie des habitants terrorisés et repliés chez eux ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. D'autres, au contraire, réussissent à s'enfuir en direction de l'ambassade du Koweït. Dans la journée du vendredi 17 septembre, des bulldozers interviennent pour détruire des maisons et creuser des fossés où sont enterrés les cadavres. Les massacres continuent, en particulier à l'arme blanche. Le drame le plus terrible a lieu à l'hôpital Raqqa, Acre, qui est pris d'assaut vers 11h du matin. Le personnel soignant européen est mis à part. L'ambassade de Norvège réussit in extremis à sortir quelques-uns de ses nationaux et 4 enfants grièvement blessés. Le CICR réussit aussi à sortir quelques enfants. L'essentiel du personnel médical arabe, les patients et les réfugiés sont massacrés. Le CICR réussit au dernier moment à évacuer un second hôpital, l'hôpital Gaza. Quelques médecins étrangers restent avec leurs patients intransportables. On a vu qu'aux extrémités du camp, des militaires libanais ont protégé les fuyards dans ce secteur. Les témoignages des survivants évoquent aussi de nombreux cas où des militaires israéliens ont refusé d'agir, déclarant qu'ils ne sont pas concernés par ce qui arrive à des terroristes. Néanmoins, il y a aussi des occurrences où des soldats israéliens ont protégé des gens et leur ont permis de sortir du camp de ce côté-là. Le massacre se poursuit dans la plus grande partie de la journée du samedi 18 septembre. Le personnel médical étranger de l'hôpital Gaza est conduit à l'extérieur par des miliciens. D'après leurs témoignages, ils allaient être fusillés quand des soldats israéliens sont intervenus pour les sauver. Il en est de même pour un grand nombre de personnes conduites vers un terrain de sport pour être interrogées et probablement exécutées. Les Israéliens reprennent l'interrogatoire. Outre les assassinats sur place, un grand nombre de personnes sont enlevées et on ne retrouvera jamais leurs corps. Il semble que les soldats israéliens ne se soient pas opposés aux enlèvements. Il est clair que le 18, dans la journée du samedi 18, les soldats israéliens ont été plus présents que les jours précédents. De jeunes Arabes ont été arrêtés et interrogés par eux. La plupart ont été ensuite relâchés, mais d'autres font partie du groupe des personnes disparues. Le même matin, Drori donne l'ordre aux forces libanaises de quitter les camps. Selon les explications postérieures, ils en auraient trop fait. Mais sur le moment, l'explication est donnée que les Américains ont multiplié les pressions pour qu'on arrête les mouvements des forces libanaises et de l'armée israélienne. Quoi qu'il en soit, le délai accordé pour le départ permet un certain nombre d'assassinats supplémentaires, ce qui pose la question de savoir ce que le commandement israélien savait précisément à ce moment précis. Au début de l'après-midi du samedi, les miliciens se retirent du camp, se rendent de l'armée israélienne. La presse internationale commence à arriver en fin de journée, puis ensuite l'armée libanaise. Les bulldozers interviennent de nouveau pour creuser de nouvelles fosses afin d'enterrer le plus vite possible les cadavres en décomposition, tandis que les survivants cherchent désespérément des membres de leur famille. On estime que 700 à 800 personnes auraient été enterrées à ce moment-là. Donc là, l'entrée des militaires dans Sabra, les corps qu'on ramasse, et on brûle les corps au lance-flammes, ce qui évidemment ne permettra pas de faire des identifications. Ensuite, trop compromise dans l'affaire, l'armée israélienne évacue le secteur des camps, qui est pris en charge par l'armée libanaise, tandis que la presse internationale recueille les témoignages des survivants et que les organisations humanitaires s'activent à prendre des mesures sanitaires d'urgence. La population des camps est prise régulièrement de panique à la suite de rumeurs persistantes d'un retour de la milice de Sadr-Hadad, disent les sources. Alors, question pour le massacre. Il existe deux rapports officiels sur les massacres ou le massacre. Le rapport libanais fait tout pour essayer d'exonérer les forces libanaises et faire porter la responsabilité sur les Israéliens et les hommes de l'armée du Liban Sud. Le rapport israélien, lui, fait reposer l'essentiel du massacre, dont les chiffres sont minimisés, sur les forces libanaises. Les témoignages des survivants marquent que la plus grande partie des assassins portaient des uniformes avec la marque distinctive des forces libanaises. Néanmoins, une fraction avait des uniformes israéliens avec la marque distinctive de l'ALS. L'ALS qui est sous le commandement direct de l'armée israélienne. Du matériel et des objets divers israéliens ont été retrouvés sur les lieux, ce qui impliquerait au minimum la présence de la milice de Sadr-Hadad à côté de celle des forces libanaises. De nombreux témoignages évoquent le fait que les miliciens étaient drogués, soit à l'alcool, soit à divers stupéfiants. Comme dans tout massacre, il y a des controverses sur le nombre des victimes. Le rapport israélien a sacralisé le nombre de 800 victimes, repris ensuite inlassablement d'auteur en auteur, parce que selon l'adage, si l'histoire ne se répète pas, les historiens se répètent les uns les autres. Les différentes enquêtes menées depuis 1982 ont permis d'identifier nominalement, et on a maintenant une liste nominale de victimes, de 900 situés et 484 disparus à suite d'enlèvements, ce qui donne une liste nominale de 1390 personnes. Quand on prend en compte les gens enterrés dans les décombres des maisons, les fosses collectives, les divers lieux d'enfouissement, on arriverait à un nombre minimal de victimes de 3500, ce qui correspond aux évaluations faites en 1982-1983. Mais il est vrai que très souvent dans la guerre du Liban, les évaluations de victimes ont été régulièrement rabaissées après les événements. On peut donc considérer que 1390 victimes est le chiffre minimal juste, à lequel il faut ajouter un nombre inconnu de victimes supplémentaires qui serait de l'ordre de plusieurs centaines. Pour mémoire, le massacre de Srebrenica en Bosnie en 1995 a fait 8000 victimes et a été qualifié d'acte de génocide par la Cour internationale, par le Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie et la Cour internationale de justice. L'organisateur immédiat du massacre est incontestablement Eli Obeika, qui a suivi l'action à partir du poste de commandement israélien. Cela arrange bien tout le monde, puisque cet aventurier sans scrupules passera ensuite du côté des pro-syriens, nous le verrons. Il sera assassiné à Beyrouth le 24 janvier 2002, alors qu'il s'apprêtait à témoigner contre Ariel Sharon lors d'un procès attenté à Bruxelles pour crime contre l'humanité. Assassin inconnu. La version officielle israélienne et bien que les officiers israéliens aient écouté les communications radio des miliciens, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Le soir du 16 septembre, au moment où commençait le massacre, le général Eitan a évoqué devant le gouvernement israélien le risque d'une explosion de vengeance de la part des miliciens chrétiens, mais a déclaré que cela ne concernait pas les Israéliens. Sur les événements du 17, le rapport officiel israélien rapporte des divergences considérables de témoignages sur le fait de savoir qui savait et qui ne savait pas dans les échelons supérieurs de l'armée israélienne. Le 18 septembre, la rumeur a commencé à courir à Jérusalem qu'un massacre était en cours. On peut s'étonner du fait que durant les rencontres entre responsables des forces libanaises et officiers israéliens, les premiers n'exposent pas ce qu'ils sont en train de faire et les seconds ne posent pas de questions sur ce qui est en train de se passer. En ce qui concerne les simples soldats israéliens, témoins des tueries, les rapports israéliens marquent qu'ils ont essayé de rapporter ce qu'ils voyaient à leurs supérieurs immédiats, mais que ces informations ne sont jamais parvenues au niveau le plus élevé de la hiérarchie militaire. L'ordre donné aux miliciens de quitter les camps n'est pas dû à leur comportement, mais aux pressions croissantes des Américains. Au minimum, les massacres de Sabra et Shatila représentent un triple désastre dans le domaine du renseignement israélien. Le premier est constitué par le chiffre quasi obsessionnel de 2 à 3 000 miliciens palestiniens, enfin terroristes, qui seraient clandestinement restés à Beyrouth et qu'il faut de toute urgence liquider. Or, les estimations les plus généreuses donnent de 60 à 80 combattants palestiniens improvisés à Sabra et Shatila. C'est le chiffre que Draper, sur le moment, a face aux Israéliens. Et il exige les Israéliens de leur dire « Mais d'où vient votre chiffre de 2 à 3 000 ?» Et les Israéliens sont incapables de lui répondre. Le second point est l'absence de prévision du comportement des miliciens. Alors que les officiers israéliens ont été les témoins directs des massacres des Palestiniens en 1976, et qu'ils ont vu comment les forces libanaises se comportaient avec les Druzes dans le Chouf, ainsi que les actions d'Abeïka au Liban Sud en 1982. Le troisième point est la totale absence d'informations sur ce qui se déroulait à quelques centaines de mètres d'un poste de commandement et que l'on pouvait ensuite suivre sur les communications radio. Le rapport israélien affirme qu'il n'était pas possible, du haut du fameux poste de commandement, de voir ce qui se passait dans les rues du fait de l'étroitesse des rues. Les journalistes qui sont ensuite allés visiter le poste de commandement, eux, prétendent qu'on pouvait parfaitement voir ce qui se passait dans les rues du camp à partir de la terrasse du poste de commandement israélien. Apparemment aussi, les Israéliens ne se sont pas posé la question de savoir pourquoi on faisait venir des bulldozers dans les camps pour creuser des fosses. Il faut ajouter l'absence de prise en compte des répercussions internationales des événements. Et à ce niveau-là d'incompétence, on est prêt pour le livre Guinness des records. Le rapport israélien nie formellement toute participation des hommes de Sadr-Hadad au massacre, puisque ça aurait impliqué une responsabilité israélienne. Contre cette conclusion, on a de nombreux témoignages contraires de la part des survivants qui ont reconnu l'uniforme et l'accent arabe des gens du Liban Sud. Sharon reconnaît dans ses mémoires qu'il avait bien des hommes de Sadr-Hadad à Beyrouth et à Shatila, mais il ne sait pas pourquoi. Un témoignage recueilli par le journaliste anglais Robert Fisk, l'un des premiers journalistes à être entré dans les camps, affirme que les interrogatoires menés pour le compte des Israéliens étaient le fait d'hommes de Sadr-Hadad à qui on doit un certain nombre de disparitions. La responsabilité juridique des massacres repose sur les Israéliens. L'entrée à Beyrouth Ouest décidée par Sharon a été une violation totale des engagements pris envers les Américains. Le prétexte avancé, éviter l'effusion de sang, montre une conscience du risque pris. En droit, la force occupante est responsable de ce qui se passe dans les régions sous son contrôle. Le rapport de la commission d'enquête israélienne reconnaît divers manquements dans la coordination des services israéliens et une responsabilité indirecte de Sharon, Eitan, Drori et des chefs des services de renseignement. Comme d'habitude, le discours israélien se construit sur la rhétorique de l'intentionnalité. Je cite. La décision de faire entrer les phalangistes dans les camps avait pour objectif d'éviter de nouvelles pertes israéliennes dans la guerre du Liban, de répondre à la pression de l'opinion publique israélienne pour que les phalangistes qui devaient récolter les fruits de la guerre y participent effectivement, et de profiter des connaissances des services phalangistes pour identifier les terroristes et découvrir les caches d'armes. Il n'existait aucune intention de la part des Israéliens de faire souffrir la population civile des camps. Il est exact qu'au cours de la guerre du Liban, et en particulier pendant le siège de Beyrouth-Ouest, la population civile, y compris les vieillards et les femmes et les enfants, a souffert, entraînant des victimes même parmi les non-combattants. Le vocabulaire utilisé par le rapport israélien est celui de terroristes plutôt que de palestiniens, ce qui montre que le rapport a le même cadre mental que celui qui a permis le massacre. On ne note pas que Begin a utilisé le terme « bête à deux pieds » pour les Palestiniens et que Eitan, un peu plus tard, a parlé de « cafards » pour les désigner. Un Begin qui ne semble pas non plus se rappeler un dialogue qu'il a eu avec un chef des milices chrétiens particulièrement radical, Étienne Sacre, le chef des gardiens des sacres, des du Cèdre, en 1977. Begin lui avait affirmé que le but de la politique israélienne est de chasser les Palestiniens du Liban et qu'on pourrait en laisser 20 000 dans le pays. Sacre lui avait répondu que cela ne posait pas de problème, nous en avons déjà tué 20 000. Donc, à ce niveau-là, il était évident que le gouvernement israélien ne pouvait pas ne pas savoir le niveau de danger de massacre qui existait. Le passé de Sharon en matière d'assassinat civil dans des opérations dites de représailles est connu de tous. Le discours gouvernemental a martelé que les Palestiniens et les nazis sont les mêmes. L'intentionnalité conduit à l'euphémisation. On a l'air de croire qu'il y a pu avoir quelques victimes accidentelles des opérations israéliennes. Une estimation basse des pertes humaines dues aux opérations au Liban de juin à septembre serait de l'ordre de 25 000 morts à 80 % des civils, des non-combattants. Certes, la déshumanisation de l'ennemi ne conduit pas à la détermination d'une responsabilité directe dans les massacres, mais permet de comprendre pourquoi le temps de réaction a été si long, pourquoi tant d'informations se perdent dans la chaîne de commandement. Quant aux guerriers que sont Sharon et Eitan, selon toute vraisemblance, ils pouvaient s'attendre à un petit massacre, comme celui des Palestiniens à Gaza en 1956 ou des prisonniers arabes dans le Sinaï en 1967, c'est-à-dire des événements qui n'ont pas fait grand bruit. Autrement dit, ils s'attendaient à ce qu'Obeika tue les 2000 terroristes clandestins et ne se sont pas intéressés au sort du reste de la population. Dans ses mémoires, Sharon semble considérer que les morts de Sabra et Shatila sont des victimes collatérales de combat. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de combat à Sabra et Shatila. Alors, on passe au choc des images. À partir de la fin de l'après-midi du samedi 18 septembre, la presse internationale diffuse les images terribles du massacre. Le choc est formidable, bien qu'en général, les médias occidentaux multiplient les précautions en ce qui concerne les responsabilités israéliennes. La confusion est à son comble dans la désignation des assassins. Dans son ensemble, la classe politique libanaise, vu la situation catastrophique du pays, est soucieuse d'une transition la plus rapide possible vers une présidence d'Amin Gemayel. Ce dernier, politicien plus traditionnel que son frère, a toujours maintenu des contacts avec les dirigeants musulmans. En revanche, dépourvu de charisme et d'esprit combattant. Il a contre lui la méfiance des milices chrétiennes. Le consensus immédiat est de faire porter la responsabilité sur les forces de Sadr-Hadad, donc sur les Israéliens. Eitan affirme de son côté que c'est la faute aux Américains qui ont empêché l'armée libanaise de coopérer avec les Israéliens et d'entrer dans les camps. De ce côté, on essaye, du côté israélien, on essaye d'échapper aux responsabilités et on fait la grave erreur tactique d'affirmer que les forces libanaises sont entrées dans les camps indépendamment de l'action de l'armée israélienne. Alors qu'en fait, l'enquête révélera qu'ils sont entrés dans les camps à la demande de l'armée israélienne. La réaction d'horreur, selon l'expression de François Mitterrand, est unanime. Les Occidentaux sont d'autant plus gênés qu'ils ont bien donné leur garantie qu'ils ne feraient aucun mal à la population civile palestinienne de Beyrouth. Reagan exige immédiatement le retour de l'armée israélienne sur ses positions du 14 septembre. Le gouvernement libanais intérimaire appelle à un retour rapide de la force multinationale afin d'imposer le retrait. Le dimanche 19 septembre, le Conseil de sécurité vote la résolution 521. Frappé d'horreur, le Conseil condamne le massacre criminel de civils palestiniens à Beyrouth et demande le déploiement rapide d'observateurs. On envisage l'envoi d'une force internationale à Beyrouth pour protéger la population civile. Mais cela prendrait trop de temps. Paris et Washington s'entendent pour le retour immédiat de la force multinationale qui, selon la déclaration de Reagan le 20 septembre, aura pour mission d'aider le gouvernement libanais à exercer sa souveraineté sur la capitale, condition essentielle à remplir pour lui permettre de reprendre en main l'ensemble du pays. C'est le gouvernement libanais, avec l'appui de son peuple, qui a sollicité cette aide. Pour que la force multinationale puisse mener à bien sa mission, il est indispensable qu'Israël se retire de Beyrouth. Si, comme il est permis de l'espérer, toutes les parties font preuve d'esprit de coopération, la force multinationale retournera à Beyrouth pour une durée limitée. Elle n'a pas pour mission d'être une force de police, mais de permettre aux autorités libanaises légitimes de s'acquitter elles-mêmes de leurs obligations. Au Conseil de sécurité nationale, Weinberger est opposé à l'envoi du contingent américain, mais il doit s'incliner. Il en résulte que la seconde multinationale part avec un mandat extrêmement vague et pour une durée totalement indéterminée. En Israël, l'opinion publique est profondément choquée par ces images qui rappellent celles de la Shoah. Si personne n'admet une responsabilité directe, on accuse pour le moins l'armée de passivité, voire de complicité dans le carnage. La décision de l'Égypte de rappeler son ambassadeur est considérée comme une grave défaite diplomatique. On s'inquiète de la vive réaction du gouvernement américain et du désarroi des communautés juives à l'extérieur, en particulier aux États-Unis. Mais Begin conserve une solide majorité parlementaire grâce à un certain nombre de ralliements durant l'été. Dès le dimanche soir, le gouvernement israélien établit sa ligne de défense en s'en prenant à la vague d'antisémitisme créée par les accusations de crimes rituels. Begin résume sa position en répétant à qui veut l'entendre « Des chrétiens assassinent des musulmans et les non-juifs accusent les juifs ». On va jusqu'à affirmer que l'intervention de l'armée israélienne a sauvé un plus grand nombre de vies. À la Knesset, la majorité refuse la constitution d'une commission d'enquête. C'est Sharon qui est le plus visé par l'opposition travailliste et il doit reconnaître devant la Knesset que c'est bien l'armée israélienne qui a demandé l'entrée des forces libanaises dans les camps. On n'avait aucune raison de penser qu'elle commettrait un massacre. Je cite. Après que l'armée libanaise eut refusé d'entrer dans les quartiers palestiniens de Sabra, Shatila et Farhani, le commandement israélien à Beyrouth accéda à la demande des forces phalangistes d'entrer dans ces quartiers pour arrêter les éléments armés qui s'y trouvaient. Il avait été établi sans l'ombre d'un doute que ces quartiers étaient pleins d'éléments armés palestiniens. Nous ne pouvions imaginer, même dans nos plus affreux cauchemars, que les forces phalangistes, des unités qui avaient toute l'apparence d'une armée disciplinée, organisées et entraînées, se livreraient à des massacres. Il est possible de nous accuser d'une erreur d'évaluation, quant au degré des forces, de discipline des forces libanaises, mais on n'a pas le droit de nous reprocher d'avoir demandé leur intervention à Beyrouth. Et sans crainte de se contredire et surtout d'aggraver son cas, Sharon s'en prend à Shimon Peres. Je cite, « Vous dénoncez notre rôle dans le massacre qui s'est déroulé à Beyrouth Ouest et dont nous n'avions pas connaissance. Mais où étaient les officiers israéliens lorsque des Palestiniens étaient massacrés à Tel Zartar ? Vous étiez ministre de la Défense à l'époque, M. Shimon Peres. Je vous défie d'oser dire où étaient ces officiers qui exécutaient vos ordres. » Donc c'est le rappel que les officiers israéliens avaient bien assisté au massacre de 1976 et que donc ils étaient parfaitement, enfin ils étaient en mesure de savoir ce qui risquait de se passer 6 ans après. Peres répond que c'est un mensonge. Après la plus grande manifestation populaire de l'histoire d'Israël, 400 000 personnes à Tel Aviv, soit 10% de la population du pays, protestant contre la politique du gouvernement Begin, le 25 septembre, Begin est forcé de former une commission d'enquête. La direction est donnée au juge Kahan, président de la Cour suprême, avec comme membre le juge Aaron Barak, connu pour ses grandes qualités de juriste, son indépendance et d'avoir été le conseiller juridique de Begin lors des accords de Camp David, et le général Efrat, ancien gouverneur militaire de la Cisjordanie. La manifestation et la formation de la commission d'enquête améliorent considérablement l'image d'Israël à l'étranger, mais les auditions publiques marque aussi, pour le moins, l'irresponsabilité du gouvernement. Begin est ainsi conduit à avouer que ce n'est que le vendredi soir qu'il a appris l'entrée des miliciens dans les camps. Il n'a été informé de l'existence d'un massacre qu'en écoutant la BBC le lendemain matin. On reconnaît aussi que ce sont les Israéliens qui ont bien demandé aux forces libanaises d'entrer dans les camps et non l'inverse. Au Liban, Amin Gemayel réussit à faire l'unité nationale autour de sa personne. Le 21 septembre, il est élu président par 77 voix contre 3, blancs. La reconnaissance diplomatique internationale est beaucoup plus rapide et complète que celle qu'avait obtenue son frère. Un des premiers gestes du nouveau président est d'annoncer la suppression de la ligne de démarcation entre les deux Beyrouth. Après les consultations d'usage, Shafiq El-Wazan est renouvelé à la fonction de Premier ministre le 4 octobre. Le 24 septembre, les premiers contingents français débarquent en avant-garde de la force multinationale. La tension est forte avec les militaires israéliens déployés dans le secteur du port. Les Américains exigent que l'armée israélienne se retire de Beyrouth Ouest avant le déploiement de leurs troupes, alors que les forces d'occupation israéliennes commencent à être l'objet d'attentats. Les premiers actes organisés ont eu lieu les 21 et 23 septembre et deviendront ensuite l'objet de commémorations jusqu'à aujourd'hui. Les premiers groupes de résistants à Beyrouth viennent du Parti communiste libanais et du Parti social national syrien, PSNS, ex-PPS. Le 26 septembre arrivent les Italiens, tandis que les Israéliens commencent à se retirer de Beyrouth centre. Le 29 septembre, les Marines prennent position dans le secteur de l'aéroport en arrivant de façon spectaculaire, comme vous voyez sur les images, en hélicoptère, la logistique, suivant ensuite par bateau. Les relations sont difficiles avec les militaires israéliens qui abandonnent de très mauvaise grâce leur position. Il est vrai que la voie de ravitaillement de l'armée israélienne longe l'aéroport et qu'elle continue d'être utilisée par les occupants. Les soldats américains sont particulièrement choqués de trouver les installations de l'aéroport partout souillées d'excréments. Plus grave, le secteur est couvert de bombes à fragmentation non explosées. Un militaire américain est tué et 3 blessés par ces mines, en quelque sorte. Le dispositif de la force multinationale est maintenant achevé. Les Français tiennent le contrôle du centre-ville et de Ras Beyrouth. Les Italiens, le secteur des camps et une partie de la banlieue sud. Et les Américains, le secteur de l'aéroport et le reste de la banlieue sud. Le 30 septembre, l'aéroport est rouvert à la communication, à la circulation aérienne. Par centaines, des Palestiniens et des Syriens sont arrêtés par l'armée libanaise et par les forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire la gendarmerie, ce qui inquiète les ambassades des pays de la force multinationale, soucieux du bon droit et de la stabilité du pays. La volonté des nouvelles autorités libanaises de rétablir la légalité à Beyrouth-Ouest se traduit par la démolition des constructions illicites, habitats et petits commerces. Ce sont les chiites de la banlieue sud qui sont surtout touchés. Les institutions communautaires et Amal protestent, d'où l'arrêt des destructions. Les musulmans opposent la tolérance accordée aux forces libanaises qui disposent de ports illégaux en secteur chrétien à la rigidité du comportement en secteur musulman. En quelques jours, le pouvoir s'est ainsi aliéné, les chiites et les druzes sont arrivés réellement à se renforcer. Sa faiblesse s'est démontrée par la poursuite des violences à Tripoli entre sunnites et alaouites pro-syriens dans une partie du pays où l'autorité de l'État est pratiquement inexistante. Bon, je vous laisse quand même un peu de pause après tout ça. Et nous reprenons dans 5 minutes.